Radio Barque, notre 33e avec Catherine Bossis, qui est donc conseillère départementale, chargée notamment de la petite enfance, je crois que c'est ça Catherine ?
Alors, je suis vice-présidente, donc en charge effectivement de l'enfance, de l'inclusion sociale et du logement.
Et du logement. On reviendra probablement dessus. Vous êtes aussi à Narbonne conseillère municipale, cette fois-ci dans l'opposition, que bien entendu au département, vous êtes dans la majorité et puisque vous êtes vice-présidente. Voilà les choses, le cadre un petit peu fixé. Alors, on va commencer par ce département, justement, et ses responsabilités que vous avez. Vous gérez notamment ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés. Alors, on parle beaucoup de migrants, de migration. Ce sont des migrants, ces jeunes. Expliquez un petit peu ce que c'est et comment le département agit à ce niveau-là et quelle est sa compétence, en fait.
Alors, le département est compétent en matière de protection de l'enfance. Donc les mineurs, quand ils arrivent sur le territoire, nous sont confiés par les services de la justice, par le procureur de la République, pour effectuer une évaluation sur deux éléments, leur minorité et le caractère isolé de leur situation.
Alors ce sont des migrants, comment sont-ils arrivés jusqu'ici en général ?
Ah, clairement, on sait qu'il y a des réseaux de passage donc ce sont effectivement des filières d'immigration, comme pour les adultes.
Mais il y a des filières spécifiques pour les jeunes, pour les enfants ?
Non, pas particulièrement. Non. Ils arrivent avec les filières traditionnelles, avec la spécificité d'être mineurs.
Et donc le département prend en charge leur présence sur le territoire ?
Tout à fait. C'est une obligation régalienne du Conseil départemental dans le cadre de la protection de l'enfance en danger. Donc effectivement, dès lors que ces jeunes sont reconnus mineurs et isolés, ils relèvent de la protection de l'enfance. Et dans ce cadre-là, effectivement, ils sont confiés au service du département.
Ça représente beaucoup de monde dans un département comme l'Aude.
Actuellement, nous avons à peu près 200 jeunes...
Par an.
Qui arrivent sur notre territoire.
Oui. Et alors, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on en fait, entre guillemets, de ces jeunes ?
Alors, une fois qu'ils sont confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, bien évidemment, comme n'importe quel enfant en situation de danger, il a le droit à un accompagnement. Un accompagnement, évidemment, social. Et puis, on va essayer de faire en sorte de l'accompagner pour un projet de sortie.
Mais où est-il logé, d'abord ?
Alors, ils sont logés... Donc, on a signé un accord avec trois associations. Donc, l'EPEP 11, qui travaille déjà avec nous dans le cadre de foyers et de maisons d'accueil pour les enfants, avec l'Andras et puis avec les apprentis d'Auteuil. Donc ces jeunes actuellement sont logés dans des lieux de vie, c'est-à-dire on loue des villas ou des appartements et on regroupe ces jeunes par groupe de 7 ou 8 avec un accompagnateur social pour les aider dans leur démarche administrative et puis dans leur démarche d'insertion à la fois professionnelle et d'insertion sociale avec un accompagnement notamment à la pratique de la langue française.
Et ils sont logés ou essentiellement dans le chef-lieu ou dans tout le département ?
Non, on a un maillage territorial puisque nos associations sont avec lesquelles on est partenaire sont sur différents territoires. Donc nous avons des jeunes qui sont sur le Narbonnais, sur le Lézignanais, sur le Carcassonnais et également sur le Limouxin.
Et alors dans ce processus, qu'advient-il ? On leur enseigne le français et ensuite ?
Alors on essaye évidemment de trouver... Ce sont des jeunes qui sont très en demande d'autonomie et qui sont très en demande d'apprendre un métier pour être rapidement autonome. Donc nous avons des partenariats avec les CFA et avec un réseau de chefs d'entreprise avec lesquels nous essayons de former ces jeunes sur des métiers en tension sur notre territoire.
Oui, en tension, ça veut dire très recherché, enfin, ou pour lesquels on n'arrive pas à recruter.
Tout à fait.
Et ils colmatent la brèche d'une certaine façon ?
Complètement. Et pour avoir discuté avec quelques chefs d'entreprise qui ont actuellement en apprentissage ces jeunes dans leur entreprise, les retours sont vraiment très bons.
Oui, parce que là, on peut imaginer qu'ils sont, comme on dit, très motivés, qu'ils ont envie de bosser, vu ce qu'ils ont connu auparavant.
Tout à fait. C'est des parcours de vie quand même extrêmement compliqués, extrêmement difficiles.
Et la plupart restent dans le département ou vont voir ailleurs ?
On a vraiment des projets qui sont très différents selon les individus. Effectivement, il y a des jeunes pour qui le projet, ça va être de rejoindre un pays anglo-saxon, le Canada, l'Angleterre, les États-Unis, Pour d'autres, effectivement, le projet va être de rester en France, pas forcément dans l'Aude, mais certains, parce qu'ils ont trouvé une entreprise, on leur a proposé un contrat de travail, vont s'établir ici.
Et alors, quid de la nationalité française ?
Alors ça, c'est un autre aspect que ne gère pas le département. Là, pour le coup, c'est l'État et les politiques migratoires de l'État. Évidemment, ces jeunes qui sont rentrés de façon illégale sur le territoire, vont, une fois atteints leur majorité, vont devoir se mettre en conformité avec la réglementation française et demander effectivement un titre de séjour ou bénéficier du droit d'asile. Mais là, effectivement, ça ne relève plus, en tous les cas, de la compétence du département, mais des services de la préfecture.
Mais il faut qu'ils atteignent leur majorité.
Alors, on commence à faire les démarches administratives avant leur majorité, bien évidemment, mais après, ce sont des documents dont ils vont avoir besoin une fois leur majorité atteinte.
Voilà. Donc, un volet important de votre responsabilité, Catherine Bossy, sur ce département, et j'imagine très méconnu des auditeurs, parce que on n'en parle jamais dans les médias, ou en tout cas très très rarement.
On parle rarement de l'enfance en danger. Voilà, on parle rarement de l'enfance en danger. Or, c'est une vraie réalité sur notre territoire. Mmh. Pour vous donner un chiffre, actuellement, nous avons 900 enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance.
Mmh. Voilà, parce que contre 200 d'origine migrante.
Oui,
alors, c'est le chiffre que vous avanciez tout à l'heure.
200, c'est une moyenne sur l'année, sachant que nous avons des entrées et des sorties.
C'est continuel.
Voilà, tout à fait. Donc ces jeunes, effectivement, sur l'année, on va avoir à peu près 200 arrivées, mais on aura des départs également dans l'année. Je tiens à dire aussi que depuis la circulaire Taubira, nous avons une répartition nationale des jeunes migrants isolés qui arrivent sur le territoire. Et donc il y a une clé de répartition qui fait que chaque département, en fonction de cette clé de répartition, va se voir attribuer la gestion et la prise en charge d'un certain nombre de mineurs non accompagnés.
Ah, là, il y a une vraie proportionnalité dans la répartition des migrants, contrairement à ce qui se passe en Europe, par exemple.
Paris, il y a un véritable problème. Il y a plus de 400 en fait, jeunes garçons surtout marocains en fait, qui ont entre 14 et 18 ans, dont la mairesse n'arrive pas à gérer le flux continu. En fait,
oui, et puis après, clairement, il faut dire qu'il y a des départements qui ne jouent pas le jeu et qui se débarrassent, c'est le cas, en donnant un billet de train aux jeunes en leur disant d'aller voir dans un autre département.
Ah oui, aussi. Oui, donc là aussi, il n'y a pas une vraie répartition.
La solidarité
équitable.
Territoriale n'est pas toujours réelle.
Donc ne joue guère plus au niveau départemental qu'au niveau européen, si je puis dire. Bon. Alors, Catherine Bossis, en tant que conseillère départementale, vous et d'autres avez récemment organisé des réunions d'information dans vos cantons. Je crois que vous en avez fait une à Bâge.
Tout à fait.
Pour expliquer un peu justement ce que vous faites, quel est votre rôle, donc de la pédagogie. Alors, expliquez-nous comment ça se passe.
Alors, pas seulement de la pédagogie sur ce qu'on fait, mais également pour rendre compte de ce qui a été fait sur le canton et rendre compte de l'action du département et dans tous ces domaines de compétences. Donc l'idée, effectivement, parce que je pense que c'est nécessaire, quand on a un mandat, on doit des comptes aussi à ses électeurs. Et la réunion de bilan de mandat annuel, c'est l'occasion à la fois de faire le point sur tout ce qui a été porté pendant l'année, mais aussi de répondre à certaines interrogations des électeurs.
Oui, et comment ça se passe ? Quel est l'accueil généralement ? Il y a de tout, forcément, mais quel est l'accueil généralement ?
L'accueil, c'est vraiment une démarche qui est assez bien perçue par les électeurs. Je pense vraiment qu'ils sont en demande d'explications, de pédagogie sur ce qui est fait. Et puis, parfois, ça leur donne aussi l'occasion d'exprimer des interrogations qu'ils peuvent avoir par rapport à certains dispositifs mis en place par le département.
Oui, justement, est-ce qu'ils ne vous reprochent pas qu'on vous voit pas assez souvent, par exemple. Est-ce que vous n'entendez pas ça?
J'essaie d'être vraiment présente sur le territoire, donc...
Enfin, vous peut-être, mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde.
Écoutez, je vais pas parler des autres. Je veux parler de moi, c'est déjà bien suffisant. Écoutez, j'essaie d'être présente sur le territoire, de rencontrer les gens quand ils me le demandent. Mais effectivement, je pense qu'il faut que les élus soient présents sur le terrain, rencontrent les citoyens. Ça me paraît être un besoin et c'est ce qui fait vivre aussi la démocratie.
Oui, oui, vous parlez comme un livre, là, bon, en quelque sorte. Alors, parmi les domaines que vous attaquez, entre guillemets, ou les problèmes auxquels vous vous attaquez, il y a ce que vous appelez la précarité énergétique. Un mot là-dessus. Parce que c'est barbare à première vue, mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, concrètement, la précarité énergétique, ce sont des ménages modestes et très modestes, des propriétaires occupants qui actuellement ont des logements qui sont des passoires énergétiques et qui se retrouvent avec des factures telles qu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir se chauffer convenablement.
Voilà, on parlait tout à l'heure du permis de louer et des taudis qui sont mis à disposition de certaines personnes. C'est un peu dans ce problème-là aussi.
Tout à fait. On est vraiment dans une problématique du mal-logement. Donc l'idée, il existait sur le département deux programmes d'intérêt général de lutte contre la précarité énergétique concernant l'agglomération de Narbonne et l'agglomération de Carcassonne. Mais sur le reste du territoire, il n'y avait rien. Donc en partenariat avec les services de l'État, la DDTM et notamment l'ANA. L'ANA, c'est l'agence nationale pour...
Tous ces sigles, il faut les suivre.
Hein. Donc l'idée est la suivante, c'est de permettre de faire des travaux pour améliorer la performance énergétique de logements anciens, donc de logements de plus de 15 ans.
Mais de logements dont ils sont propriétaires ou locataires ?
Alors, ça s'adresse à des propriétaires occupants, modestes et très modestes. Donc l'idée, c'est de faire un diagnostic en termes de performance énergétique et d'accompagner les personnes pour remplir les dossiers administratifs leur permettant d'être éligibles à un certain nombre d'aides et de subventions, notamment les aides de l'ANA, les aides de la région, l'aide du département et puis également les caisses de retraite, la MSA, qui peuvent accompagner les propriétaires occupants modestes à réaliser un certain nombre de travaux.
Et ce public est sensibilisé, est informé de ce droit-là ?
Alors, c'est justement l'intérêt du programme d'intérêt général que nous développons, puisque nous allons nous appuyer sur l'ensemble de notre réseau de travailleurs sociaux qui vont avoir une démarche proactive, c'est-à-dire qu'ils vont identifier sur leur territoire des personnes vulnérables, des personnes modestes et très modestes, des propriétaires occupants, pour leur proposer cet accompagnement et ce service. L'idée, bien évidemment, ça croise aussi une autre compétence du département qui est les personnes âgées, c'est de pouvoir maintenir à domicile des personnes âgées avec des retraites modestes qui parfois sont obligées de quitter leur logement parce qu'elles n'arrivent plus à se chauffer convenablement. Et donc là aussi, il y a un vrai enjeu de politique publique, notamment avec le maintien à domicile des personnes âgées.
Alors cette précarité énergétique touche aussi des retraités, peut-être une proportion importante.
Sur le territoire audois, oui, elle touche clairement une partie importante des retraités. On a quand même un parc résidentiel qui est assez ancien. Et ce parc ancien n'a pas forcément fait l'objet de réhabilitation et notamment de travaux pour améliorer les performances énergétiques. Et puis, il faut aussi parfois les personnes âgées notamment ne veulent pas, quand elles n'ont pas leurs enfants à proximité, ne se sentent pas forcément capables d'engager des travaux assez importants, d'aller chercher des artisans pour faire des devis. Et là, clairement, l'accompagnement est très utile.
C'est-à-dire l'accompagnement, ça veut dire que c'est vous qui cherchez et qui trouvez les artisans
Non, absolument pas. Nous conseillons le travail qui est fait dans le cadre du programme d'intérêt général. C'est de faire un diagnostic, de dire quels sont les travaux qui sont à faire, de proposer effectivement une liste d'artisans qui sont habilités à faire ces travaux. Et bien évidemment, c'est au propriétaire occupant de faire son choix sur les artisans qu'il souhaite faire travailler pour réaliser les travaux.
Mais vous avez une liste d'artisans sélectionnés, un petit peu orientés vers ce genre de travaux.
Oui, ce sont des artisans qui sont certifiés, voilà, et donc qui peuvent obtenir... Cette certification permet d'être éligible aux subventions et aux aides.
Oui, d'accord. Et donc, un dernier mot sur la précarité énergétique dans l'Aude. Maintenant, tout le territoire est couvert.
Oui, tout le territoire est couvert.
Y compris les petits villages au fond des Corbières.
Tout à fait. Tout le territoire est couvert et c'était vraiment l'objectif de ce plan d'intérêt général départemental.
Alors, Catherine Bossis, vous êtes donc conseillère départementale avec pour président Monsieur Viola. On a entendu tout à l'heure que celui-ci était parti, avait pris son bâton de pèlerin pour essayer de tester le fameux revenu universel, revenu de base. Est-ce que vous êtes concerné par cette expérimentation?
Tout à fait. Alors peut-être avant de parler de ce que l'on souhaite expérimenter, j'aimerais bien, je vais refaire un petit peu de pédagogie sur l'idée qui nous a guidés pour demander ce droit à l'expérimentation au gouvernement. D'abord, on est parti d'un diagnostic qui est partagé d'ailleurs par le gouvernement, puisqu'il va annoncer un plan de lutte contre la grande pauvreté qui reprend en partie une partie de notre diagnostic. Alors, quel est ce diagnostic? C'est qu'aujourd'hui, nous avons des minima sociaux qui ne permettent pas de lutter efficacement contre la pauvreté, la très grande pauvreté. Nous avons également un système d'aide sociale qui date aujourd'hui d'il y a à peu près une trentaine d'années, si je pense au RMI, et qui ne répond plus à ce qu'est la pauvreté et la précarité aujourd'hui. Elle a changé. C'est vrai que nous avions, au sortir de la guerre et dans les années 60, une pauvreté qui était plutôt celle des personnes âgées. Et donc, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place, notamment le minimum vieillesse. Aujourd'hui, la pauvreté concerne les jeunes, majoritairement.
Oui, c'est pas tout à fait nouveau.
C'est pas tout à fait nouveau, mais ça s'est amplifié ces 30 dernières années. Aujourd'hui, nous avons à peu près 24% des moins de 25 ans qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc les jeunes, et puis aussi une très forte proportion de familles monoparentales, et notamment des femmes seules avec enfants. Donc face à ce constat que les minima sociaux ne permettent plus de lutter efficacement contre la pauvreté, et oui, et je tiens à préciser aussi, il y a un non-recours, c'est-à-dire qu'on a à peu près 30% des personnes qui pourraient être bénéficiaires des minima sociaux qui ne le demandent pas. Pour plusieurs raisons, la complexité des démarches administratives, et puis aussi, il faut oser le dire, parfois une certaine honte à demander de l'aide. Je pense notamment au public des agriculteurs, pour qui demander de l'aide, c'est être stigmatisé, être montré du doigt. Et ça, c'est aussi quelque chose contre lequel il faut lutter. Donc partant de ce diagnostic, que ça ne fonctionnait pas, on s'est dit que on pourrait peut-être essayer d'imaginer autre chose, qui répondent notamment à une meilleure lutte contre la pauvreté et la précarité. Alors ce qu'on demande, c'est un droit à l'expérimentation. Alors un revenu de base, comme Michel l'a dit tout à l'heure, ça n'est absolument pas un revenu universel. Bien évidemment, c'est un revenu qui est assujetti à des conditions de ressources, donc qui s'adresse aux personnes les plus démunies. Quelle est la différence avec ce qu'il y a aujourd'hui? D'abord, nous souhaitons fusionner différentes allocations. Donc plusieurs scénarios sont à l'étude. Donc la fusion évidemment du RSA et de la prime d'activité, ou éventuellement la fusion du RSA, de la prime d'activité et de l'allocation logement. L'idée, c'est d'avoir une allocation unique. Et en ça, le gouvernement est également en train d'y réfléchir.
Voilà, là, ça serait une simplification administrative.
C'est une simplification administrative et qui évite aussi d'avoir une multiplicité de guichets qui rend les choses très compliquées pour les usagers, les bénéficiaires et les allocataires. Deuxième point, c'est de permettre aux moins de 25 ans, donc l'idée, pour le moment nous ne sommes pas tous d'accord, mais l'idée c'était d'ouvrir des droits aux 21-25 ans qui sont aujourd'hui, je le dis, les personnes les plus atteintes par la pauvreté. On a vraiment un taux de pauvreté chez les 18-25 ans qui est très supérieur à la moyenne des autres personnes. Troisième point, c'est l'automaticité, c'est-à-dire que aujourd'hui, les personnes doivent solliciter les aides. Alors là aussi, les systèmes sont complexes. Donc là, l'idée, c'est que ce versement se fasse de façon automatique et qu'on n'ait plus des déclarations à faire tous les trimestres, tous les mois, à différents guichets. Donc l'idée, c'est vraiment de simplifier pour les allocataires ce système. Là aussi, je le note, c'est une réflexion qu'a le gouvernement, et c'est ce vers quoi il s'oriente également. Mmh. Voilà. Donc ce que l'on demande, c'est un droit à l'expérimentation.
Oui, voilà. Et pour le moment, il s'agit de tester et de voir ce que
tout
cela
à fait.
Pourrait donner au niveau donc de quelques départements.
C'est ça. Donc l'idée, c'est d'expérimenter sur 20 000 personnes. Pour voir si, effectivement, avec ce revenu de base, on améliore les choses. On est dans, enfin, il y a aucun dogmatiste. Au contraire, on est vraiment dans une vision très pragmatique, c'est-à-dire qu'on essaye, on voit si ça fonctionne.
Oui, bon, ben, ça change un peu parce que le Parti socialiste n'avait pas forcément cette méthode dans le passé.
Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense notamment au territoire zéro chômeur de longue durée. On est exactement dans la même logique d'une expérimentation, c'est-à-dire que on va sur certains territoires mettre en place ce programme de zéro chômeur de longue durée. Aujourd'hui, j'ai discuté avec différents élus sur lesquels sur les territoires desquels ce dispositif a été mis en place, et clairement il commence à en voir les effets sur l'économie locale.
Bon, donc une expérimentation qui porterait des fruits. Un tout dernier mot très rapidement, Catherine Bossis, vous êtes conseillère municipale de Narbonne. On sait qu'il y a des élections municipales qui se profilent dans certaines villes, par exemple la semaine dernière nous avions le président des Républicains de Perpignan qui eux ont déjà des candidats, une stratégie qui se met en place. Sur Narbonne, pourtant on sait que forcément le PS et l'opposition et partante, on a l'impression quand même qu'il y a un silence qui règne pour le moment.
Alors ça, c'est une impression.
Vous allez me dire que c'est tôt, mais.
Alors, je pense que ça n'est qu'une impression. Alors nous travaillons, donc l'ensemble des élus d'opposition, sur un projet alternatif. L'idée, bien évidemment, c'est de proposer un autre projet à celui qui est actuellement proposé par Didier Mouly et la majorité municipale. Nous travaillons à une liste large, avec des compétences, avec des gens qui viennent, qui ont envie de s'investir, j'ai envie de dire, pour la ville dans laquelle ils ont décidé de vivre, dans laquelle ils ont décidé d'avoir une activité professionnelle. Donc cet engagement-là ne concerne pas forcément que les socialistes. Mmh. Donc vraiment, nous travaillons à une liste large. Et donc, aujourd'hui, il me semble que le plus important, c'est pas tellement de savoir qui sera tête de liste, mais de construire un projet, une alternative. J'ai envie de vous dire, tout à l'heure, Michel parlait de l'absence d'animation pour la Coupe du Monde des juniors. Moi, j'ai envie de vous dire que depuis 3 ans, j'ai pas vu grand-chose, enfin, presque 4 ans maintenant, je n'ai pas vu grand-chose en termes de réalisation de la ville. Alors, on nous parle de cette salle multimodale. Bon, très bien, j'ai plutôt l'impression qu'on va avoir un grand trou, tant physique que financier. Mais je pense que en termes de vision, le compte n'y est pas. Alors, je ne vais pas dire que rien n'a été fait. Il y a des choses positives. Je pense notamment à la restauration qui a été mise en place dans les maternelles. Mais vous voyez, là encore, on n'est pas allé jusqu'au bout. On a mis en place de la restauration dans toutes les maternelles. Mais aujourd'hui, on est encore dans une chaîne froide, alors que de nombreuses collectivités travaillent sur les circuits courts, travaillent sur le manger local. Vous voyez,
voilà,
encore, je pense,
quelques voilà. Pistes donc sur lesquelles il faudra revenir probablement. Il faudra laisser passer l'été avant de savoir un petit peu plus. Et on vous retrouvera, vous et d'autres, probablement à la rentrée. Merci en tout cas, Catherine Bossis, d'avoir été l'invitée de ce 33e Radio Barque, l'avant-avant-dernier d'ailleurs de la saison. Le prochain recevra Patrick Milani, qui est un enseignant du lycée Louise Michel et qui est, je dirais presque célèbre, en tout cas habituel, de films qu'il réalise avec des élèves de ce lycée Louise Michel sur les thèmes auxquels se confrontent les lycéens. Merci en tout cas d'être resté à notre compagnie et à la semaine prochaine.
Merci.